Ce matin, avec la présidence d'Annie, on est revenu au fondement de notre foi, la main que Dieu nous tend pour nous accorder sa grâce, faire de nous des êtres libres, pardonnés, qui ont en commun cette espérance éternelle et l'amour que nous avons aussi pour ce Dieu qui nous a aimés au point de sacrifier son Fils. Ce matin, nous allons aussi parler ensemble de cette grâce de Dieu qui se manifeste en parlant du livre de Jonas. Je vous invite déjà à lire les trois premiers versets de ce livre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ce livre commence de façon très claire et très directe. On entre tout de suite dans le vif du sujet. L'Éternel s'adresse directement à Jonas, il lui confie une mission qui est très précise et la réaction de Jonas est immédiate. À peine l'Éternel a fini de parler que Jonas se lève pour faire exactement le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Dans sa réaction de fuite, il y a déjà la fuite géographique, puisque si on compare par rapport à la géographie actuelle, Jonas devait aller à Ninive, qui correspond donc à l'Irak actuel, et il est parti à Tarsis, qu'on peut localiser aux environs de l'Espagne. Donc fuite géographique et également dans cette fuite, la fuite psychologique de Jonas par rapport à cette mission, son refus d'obéir et le fait qu'il s'endort dans ce bateau, puisque, comme vous le savez, si on continue la lecture, quand Jonas va être sur ce bateau, Dieu va faire souffler une tempête qui va fortement effrayer les marins, mais Jonas, de son côté, lui, il s'est endormi. Et on peut voir aussi dans ce sommeil cette fuite de sa part, son envie vraiment de mettre un rideau entre ce que Dieu lui avait demandé et lui-même. D'ailleurs, quand Jonas dort dans la tempête, moi, ça me fait penser à Jésus qui s'est endormi dans la barque avec ses disciples. Sauf que là, clairement, les motivations sont complètement différentes. Puisque Jésus dormait, si on peut dire, du sommeil du juste, complètement apaisé. Et Jonas, lui, s'endort pour fuir la situation et, je pense, en n'étant pas du tout apaisé dans son esprit. Alors on peut se demander finalement pourquoi est-ce que Jonas a cette réaction, pourquoi est-ce que Jonas refuse d'obéir et pourquoi est-ce qu'il se donne autant de mal pour ne pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire. On peut déjà penser que Jonas avait peut-être tout simplement déjà peur de faire cette mission. Ninive est clairement décrite comme une ville remplie d'hommes méchants et Jonas devait aller dans cette ville pour apporter un message de condamnation. Il devait aller leur dire « va, Dis-leur qu'ils sont condamnés, que je vais porter mon jugement sur eux. Bon, peut-être que Jonas s'est dit que je vais y aller, je vais leur dire que Dieu les condamne, je vais peut-être pas être très très bien reçu par ces personnes qui ne sont pas connues pour leur douceur de caractère. Hein. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on peut aussi penser que Jonas n'était pas volontaire pour y aller parce que Ninive n'est pas une ville juive. Et il a peut-être eu, comme l'apôtre Pierre un petit peu plus tard dans le Nouveau Testament, cette même réaction de ne pas vouloir aller chez des gens qu'il appelle les païens, parce que pour lui, ça correspond à de la souillure, c'est quelque chose qui est impur pour lui, et il se disait peut-être que lui, en tant que juif, il était trop bien pour aller chez ces personnes qui ne connaissaient même pas le Dieu dont il était censé leur parler. Alors, à la décharge de Jonas, on peut reconnaître que on a d'autres prophètes dans la Bible qui ont, dans un premier temps, refusé la mission que Dieu leur avait confiée. On peut parler du prophète Élie, qu'on retrouve dans le livre des Rois. Élie qui craint pour sa vie parce que la reine Jézabel veut sa mort. Élie se retrouve dans le désert, il veut mourir quand il est dans ce désert et lui aussi va s'endormir avant de finalement avoir une rencontre personnelle avec Dieu qui va venir le trouver dans ce désert pour lui faire du bien. On a aussi l'exemple de Moïse dans le livre de l'Exode. Moïse non plus ne voulait pas aller voir le roi d'Égypte, il ne voulait pas délivrer Israël de l'esclavage égyptien. On se rappelle tous de ses excuses qu'il a trouvées, mais est-ce que je suis capable? Mais Israël ne va pas me croire, ne va pas m'écouter. Et puis, ma préférée, mais je ne sais pas parler, la preuve, je n'invente pas. Déjà, quand j'étais petit, j'avais ce problème. Non, vraiment, c'est pas possible, c'est pas moi, je ne suis pas la bonne personne. À chaque fois, Dieu va les écouter. Chacun de ses prophètes, il va prendre le temps de les écouter, il va aussi leur répondre, il va les rassurer. Mais les projets de Dieu ne vont pas changer parce que ces prophètes, finalement, n'ont pas envie de le suivre. Élie, Moïse ont été appelés à participer à son plan de salut et ils vont y participer. Et même Jonas va finalement changer, accepter cette mission, se repentir et aller à la rencontre des Ninivites. Nous avons laissé Jonas dans la tempête, endormi sur le bateau, mais les marins se sont quand même empressés d'aller le réveiller, de le secouer, de lui demander des explications. Et Jonas va donc se retrouver jeté à l'eau, dans le ventre de ce poisson. Il va y passer 3 jours et 3 nuits. Et ce séjour dans le ventre du poisson, qui est quand même la suite logique de la désobéissance initiale de Jonas, Jésus en parle dans Matthieu 12 et il le compare à sa propre mort et sa future résurrection. Il en parle au prophète comme étant le signe de Jonas qui n'a pas suffi à ce que les pharisiens, le croient. Jonas, quand il est dans le ventre de ce poisson, il va crier à Dieu, il va se repentir, et je vous invite à lire la prière qu'il adresse, que vous trouvez au 2e chapitre du livre. « Dans ma détresse, J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et la conclusion de cette prière, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas crie à Dieu du fond de son désespoir. Dieu vient à sa rencontre, il l'entend, il l'écoute, il le délivre. Et si on lit le chapitre suivant, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Le plan de Dieu n'a pas changé pour Jonas. Jonas doit faire ce que Dieu avait initialement prévu. Et la différence, c'est que cette fois-ci, Jonas se lève et il va à Ninive. Quand Jonas est à Ninive, alors ce qui se passe, c'est absolument extraordinaire, puisque cette ville, comme on le disait, remplie de personnes méchantes, va se repentir. Un jeûne va être publié, les animaux eux-mêmes vont devoir jeûner, toute la ville va vraiment se repentir, être dans cette volonté de changement. Il faut avouer qu'on voit là la puissance de Dieu à l'œuvre d'une façon extraordinaire, comme seul Dieu peut le faire. Dieu qui touche tous ses cœurs pour que ce message qui au départ est un message de condamnation devienne pour eux un message de salut. Et puis, ce qui est magnifique aussi de constater, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans ce livre. Tous ces Ninivites qui étaient condamnés et qui ont accepté de se repentir ont été pardonnés. Et le plan de Dieu pour eux, à ce moment-là, il a changé. Alors moi, je trouve ça magnifique. Je pense que vous, vous trouvez ça aussi magnifique. Mais pas Jonas. Jonas, lui, ça le dépasse. Ce Dieu qui pardonne, qui tend la main, qui fait grâce. Bon, alors c'est vrai que lui, il en a bénéficié de cette grâce dans le ventre du poisson. Mais qu'est-ce que ça l'ennuie que les Ninivites en profitent aussi? Cela déplut fort à Jonas, chapitre 4. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Dieu ne va pas s'expliquer, il ne va pas argumenter, il ne va pas rendre des comptes à Jonas. Il lui pose une simple question: « Jonas, fais-tu bien de t'irriter ?» Et cette question renvoie Jonas à lui-même, à sa propre réflexion, à lui de réfléchir sur sa manière de penser, sur son attitude, mais Dieu à ce moment-là ne va pas lui dire « Jonas, je vais tout t'expliquer, tu vas tout comprendre ». Non. Cependant, Jonas donc sort de la ville, il est toujours dans cette irritation, dans cette colère, et Dieu va venir à lui. Dieu va venir avec l'épisode du ricin, essayer de lui enseigner d'une autre façon, avec une autre pédagogie, qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est que sa bonté. Jonas est donc à l'extérieur de la ville, il a chaud, et Dieu fait croître donc ce ricin qui s'élève au-dessus de Jonas, qui lui donne de l'ombre, et qui a aussi pour but de lui ôter son irritation. Le texte nous dit que Jonas éprouve une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fait venir un ver qui ronge le ricin sèche. Et au lever du soleil, Dieu fait souffler un vent chaud qui frappe la tête de Jonas au point qu'il s'évanouit presque. Et Jonas dit à Dieu: « La mort m'est préférable à la vie. » La mort m'est préférable à la vie. On a l'impression que Jonas, il n'a pas tellement réfléchi à ce que Dieu voulait lui enseigner à travers tout ça. Et Dieu lui dit finalement: « Mais Jonas, tu as eu pitié du ricin. Le ricin ne t'a rien coûté, tu n'as fait aucun effort. Il est né en une nuit, il a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Voilà la dernière parole de Dieu à Jonas. On ne sait pas ensuite ce qui s'est passé, on ne sait pas comment Jonas finalement a réagi après coup, mais finalement le plus important dans tout ça, c'est de voir la réaction de Dieu vis-à-vis de son prophète. C'est de voir Dieu qui ne le laisse pas seul, qui va encore une fois vers lui, alors que Jonas s'est irrité, il est sorti de la ville et il n'était certainement pas du tout dans un état d'esprit de recherche de dialogue et de compréhension. Il estimait qu'il avait raison d'être énervé et que c'était lui qui était dans son bon droit. Eh bien, Dieu va encore le voir, il prend soin de lui physiquement avec ce ricin, pédagogiquement aussi, il cherche encore à l'enseigner, il ne veut pas que Jonas reste dans cette attitude, il veut que Jonas comprenne pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière. Et dans l'ensemble de ce livre, qu'on regarde ce qui se passe entre Dieu et Jonas, entre Dieu et les Ninivites, c'est un livre qui fait 4 chapitres et pourtant on voit Dieu dans toute sa beauté, dans toute la richesse de sa nature, le Dieu qui ne supporte pas le péché mais qui pardonne au pécheur qui se repent, le Dieu qui est tout puissant et qui pourtant prend tellement soin de son prophète, qui montre tellement de patience envers lui, et un Dieu qui sait être tellement proche tout en respectant les libertés de chacun. Alors, que pouvons-nous en retirer pour nous aujourd'hui ? On a tous nos aléas, nos quotidiens, les difficultés qu'on peut rencontrer, les chagrins qu'on peut avoir aussi. Et puis, je pense que vous êtes comme moi, parfois, il y a des choses qui arrivent. Et quel sens ça a ? On ne sait pas du tout. Que ça soit à des petits niveaux, à des niveaux un petit peu plus importants, que ça soit au niveau de nos vies, nos familles, au niveau de notre pays, ou même si on regarde ce qui se passe dans le monde, on peut se poser pas mal de questions sur pas mal de choses. Et bien, dans tout ça, moi je pense que Dieu est là pour nous dire « Je suis là, je t'aime, je te conduis, je te tiens la main, et même si tu ne comprends pas, même si peut-être tu n'es pas d'accord, tu es en colère, tu es irrité, je suis là. Alors fais-moi confiance, sois dans l'obéissance, mais sois aussi assuré que je suis un Dieu bon. Et comme le dit Jonas, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Et moi, à la lecture de ce livre, j'ai vraiment eu cette prière de reconnaissance, de me dire « Mais Dieu est le même aujourd'hui qu'il était à l'époque de Jonas. » Il est toujours aussi puissant, il est toujours aussi bon, il est toujours aussi patient. Et même si on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui, on se dit qu'on est entre ses mains et qu'à partir du moment où on a cette assurance, on peut se laisser conduire, on peut faire confiance et on peut essayer de ne pas être comme Jonas et de lui faire un petit peu plus confiance, en se disant que c'est lui qui conduit toutes choses et qu'il veut de toute façon le meilleur pour nous. Amen.